Bonsoir tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dans le Mille, l'épisode 32. Et écoutez, ce soir, comme vous le voyez, encore une fois, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai un invité que les deux, on attendait depuis super longtemps, donc je l'ai avec moi, avec nous, en pensée pour cet épisode-là encore. Écoutez, je suis vraiment content de l'invité qu'on a ce soir, puis j'ai plein de questions à lui poser, fait qu'on va commencer assez vite, puis on va entrer directement dans l'intéressant. Mais avant tout, comme d'habitude, je voulais vous présenter nos partenaires. Tout d'abord, QuickFeet, une semelle de performance que vous mettez dans vos patins pour vous aider à être plus stable, pour en performer mieux. Donc, une semelle de performance avec, sur la bande 10, vous avez 10% de rabais. Et puis, notre deuxième partenaire, comme d'habitude, notre partenaire de recherche, le site de statistiques gratuit le plus complet. Et puis, si vous voulez approfondir encore plus, il y a l'abonnement premium. Vous avez 30% de rabais pour un abonnement annuel avec le code DLM30. D'ailleurs, avec cet abonnement-là premium, il y a quelque chose de super intéressant qui sort à chaque année. C'est le guide de repêchage de Elite Prospect. Puis, ça rentre super bien parce que mon invité a travaillé fort là-dessus. Fait que pour vous parler de ça, je vais le laisser le faire. Fait que, salut, David.
Salut. Oui, effectivement. Je travaillais très fort là-dessus. Là. Il y a peut-être un millier de mes rapports là, dans ce guide-là. Puis, il est sorti hier. Ouais. Je pense que c'est notre meilleur jusqu'à date. Là. Là-dedans, il y a des quotes de ce que les nationales. Fait que vous avez aussi des opinions un peu du milieu. Il y a tous nos game reports. Il y a nos tools grade. J'ai dit beaucoup de mots anglais durant le podcast parce que je suis habitué de parler dans cette langue-là.
C'est
c'est ça. Puis il y a tous nos rapports sur les joueurs. Vous allez pouvoir avoir une comparaison aussi entre les joueurs. On fait ça. Puis le guide, il fait 2000 pages. Là, fait que vous allez avoir de la difficulté à passer à travers d'ici au draft. Mais si vous êtes intéressé à quelques joueurs, bien, vous pouvez les cibler, aller là leur profil. Puis n'importe qui votre équipe va repêcher, bien, vous allez avoir beaucoup d'informations. Là, parce qu'on a 400 joueurs là-dedans. Fait que généralement, on attrape là, 90% ou plus des joueurs qui se font repêcher. Fait que c'est assez complet.
Oui, puis écoute, quand le guide est sorti, je me suis dit, bon, pour être un petit peu plus prêt pour l'interview, je vais aller regarder c'est quoi un petit peu des coups de cœur, des joueurs qui ont été analysés. Puis finalement, écoute, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Là, comme tu l'as dit, 2000 pages, j'ai regardé les rankings au début, mais c'est vraiment des petites parties que j'ai vues. J'avais des joueurs sur lesquels j'avais des points d'interrogation, puis le profil est complet. Des game reports, comme tu as dit, des descriptions longues, c'est quoi ses forces, ses faiblesses. C'est excellent. Puis, est-ce que tu voudrais juste expliquer un tout petit peu qu'est-ce que tu fais pour Elite Prospect avant qu'on commence vraiment dans les questions?
Ouais, c'est moi qui vais regarder le plus les joueurs côté A ou B au repêchage, fait que vraiment les top prospects, puis je m'occupe autant du côté nord-américain puis européen. Fait qu'on a des directeurs de scouting de chaque côté qui ont vraiment regardé leur région en gros et en large. Et moi, je vais essayer de combiner leur point de vue en ayant vu tous les joueurs pour pouvoir vraiment aider à monter la liste plus, vraiment comparer les joueurs, savoir c'est quoi la valeur de un des comparatifs entre les deux. Fait que je m'occupais beaucoup du haut de la liste, dans le fond. Puis je fais des rapports beaucoup sur ces joueurs-là. Fait que si vous ouvrez le guide, là, dans les premières pages, ça va être beaucoup de mon nom qui va revenir, mais plus on va avancer dans le guide, moins je vais être présent, là. À part pour la LHJMQ. Je m'occupe vraiment de regarder tous les joueurs de la LHJMQ, mais sinon, c'est les top prospects que je m'occupe le plus.
Fait que, écoute, d'habitude, à chaque podcast, je commence en parlant un petit peu d'actualité. Puis là, quand j'ai un invité, bien sûr, c'est ton knowledge, pour utiliser une expression anglophone encore, que je veux. Fait que d'habitude, je saute ça, sauf que cette semaine, ça rentre vraiment bien. Parce que l'actualité, la plus grosse actualité dans le hockey, c'est sûr, il y a la finale de la Coupe Stanley, il y a la finale de la PWHL qui vient de finir. Mais dans le dernier épisode, j'avais beaucoup parlé de la Coupe Memorial. Puis elle vient de se finir, on a vu que Saguenay a gagné. Fait que écoute, pour commencer, je te posais quelques questions là-dessus. Pour commencer vraiment libre, est-ce qu'il y a un joueur dans la Coupe Memorial qui t'a vraiment impressionné par ses performances?
Ouais, il y a Sam O'Reilly de London, qui est un joueur qui est comme plus classé en deuxième ronde sur la majorité des listes. C'est drôle parce que son nom de famille, c'est O'Reilly, puis mon comparatif pour lui, c'est Ryan O'Reilly dans la nationale, vraiment. C'est pas le patin le plus explosif, ses habiletés sont bonnes, il projette bien dans la nationale, mais c'est pas le plus élite dans chacune des habiletés. C'est juste son positionnement sur la glace, ses détails, son jeu physique, son jeu de passe. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui qui ressemble à son comparatif LNH. Puis je pense qu'avec son jeu en Coupe Memorial, à quel point il a été solide, bien, je pense qu'il y a une chance de sortir en fin de première ronde maintenant. Là. Puis qu'est-ce qui se passe aussi avec London, c'est que souvent des joueurs de deuxième, troisième trio comme ça durant la saison, qui n'ont pas eu accès à autant de jeux de puissance, n'ont pas eu accès à autant de temps de jeu comme sur les joueurs de première ligne, bien souvent, quand ils reviennent l'année d'après, puis les joueurs comme Easton Cohen, tout ça, s'en vont dans l'année nationale, bien, ils ont plus de temps de jeu. Fait qu'on va sûrement avoir la production de O'Reilly exploser l'année prochaine. Fait que l'équipe qui va le repêcher, un peu comme avec Cohen l'année passée, bien, ils vont avoir vraiment très, très bon parce que la production va augmenter pour Sam O'Reilly, puis il y a tous ces détails-là. Je pense pas que c'est un joueur top 6 Ligue nationale. Je pense plus que c'est comme milieu de l'alignement, mais encore là, il y a tous les détails. Fait que c'est vraiment intéressant comme profil. Fait que nous, on l'a classé 47 ou 48e, quelque chose comme ça. Puis déjà, ça a l'air un petit peu bas là, par rapport à ce qu'il y a. Parce que notre guide sortait au même moment que la Coupe Memorial. Fait qu'à la fin, on ne peut plus faire autant d'ajustements. Mais c'est environ ça. Là. Joueur début deuxième ronde, fin première ronde peut-être, c'est là que je m'attends à sortir. Puis c'est ça, c'est un joueur à surveiller.
Moi, ce que j'ai vu sur O'Reilly, c'était vraiment, écoute, c'était du podcast Processus là, de Mathias Brunet, où je pense que c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'est quand je l'ai écouté tantôt, mais où il disait que ça pourrait être vraiment un pick à la Owen Beck avec potentiellement un petit peu plus d'upside. Donc, tu sais, un joueur que tu vas aller chercher, tu sais qu'il n'est pas sur ton premier trio, que c'est pas ton futur premier centre, mais qui va être vraiment utile sur ton bottom six, comme tu disais. Fait que, c'est un peu là que toi, tu le vois aussi.
Oui, mais en plein, c'est un bon comparatif aussi en termes de style de jeu, puis potentiel LNH, ça ressemble beaucoup, là.
OK, puis écoute, pour parler des deux gros noms de la Coupe Memorial puis qui se raffronteraient en finale, là, en tout cas, on ne pourrait pas parler de la Coupe Memorial sans parler d'eux. Déjà, pour commencer, Sam Dinkinson, c'est quelqu'un que, écoute, selon les listes, là, on l'a vu vraiment monter et descendre à chaque année. Puis en se basant sur ses performances en série éliminatoire de la OHL, puis sur ses performances à la Coupe Memorial, tu sais, est-ce que tu penses que ça l'a affecté en allant plus haut ou plus bas, puis vers quel territoire est-ce que tu le vois sortir à peu près?
Moi, je pense que si il tirait de la droite, ce serait même calibre que Levchunov. Vraiment, la seule chose qui fait en sorte que Levchunov est en avant de lui pour probablement la majorité des listes LNH, c'est juste qu'il n'est pas cette rareté-là là, de tireur à droite. Là. Mais sinon, c'est un joueur qui est assez comparable, là, vraiment. Il fait tout bien. Je pense pas qu'il est exceptionnel dans rien nécessairement, à part peut-être sa capacité à s'activer dans le jeu, puis à trouver des espaces libres, puis à vraiment aller vers l'avant là, pour supporter l'offensive, parce qu'il y a un excellent patin. Vraiment, là, c'est un patineur presque élite. Puis il mesure 6 pieds 2, 6 pieds 3, fait qu'il couvre beaucoup de glace, vraiment. Fait que ses atouts, là, dans la Ligue nationale, sont super impressionnantes. Où est-ce qu'on a plus de doutes avec Dickinson, c'est plus son hockey sense, en général. Puis je pense qu'il y avait des excellents moments dans la Coupe Memorial, puis d'autres aussi, où est-ce que ça ressortait un peu plus, là. C'est pas un joueur qui va faire beaucoup de jeux en breakout. Ses reads, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a tellement d'atouts que le jeu va être plus facile pour lui dans la Ligue nationale à la base. Fait que je pense pas qu'il va avoir autant de pression sur son processing là, du jeu en général. Il va être capable de juste, même si c'est un petit peu en retard, ben avec son bâton puis un bon pivot, il va être capable de quand même de faire un jeu, des choses comme ça. Fait que je pense qu'il projette en général top 4, c'est assez certain. Ça se peut qu'il monte quand même. On va voir, dépendamment de quelle équipe il joue et tout ça, quelle équipe il repêche. Je pense que ça peut aller de comme peut-être le pic numéro 2-3 même, mais peut-être, à peut-être jusqu'à numéro 10. Nous, on l'a un peu plus bas, Dickinson, à cause des soucis là, par rapport à son hockey sense, puis on l'a descendu lentement dans l'année. Mais c'est un excellent pic, là, honnêtement.
Oui, puis écoute, j'ai l'impression aussi que des fois, je sais pas, c'est difficile à gauger le skill que tu as devant toi, puis un peu la sécurité. Dans le sens où un Anton Silaiev, à cause de son build, puis tu sais, on a vu des joueurs comme ça monter beaucoup plus haut que où est-ce qu'on projetait qu'ils se feraient prendre, juste parce que justement, ils sont plus grands, sont plus shutdown, puis sont à l'aise sur leur patin.
Oui.
Pourrait arriver pas mal plus haut, juste à cause du potentiel, alors qu'un Dinkinson, tu sais, oui, peut-être que tu le prends, puis il n'atteint pas exactement où est-ce que tu veux qu'il soit, mais moi, en tout cas, je vois pas un monde où c'est pas au moins un défenseur de deuxième paire pour vrai, qui peut potentiellement sûrement jouer sur ta deuxième unité d'avantage numérique, là.
Oui, je suis entièrement d'accord. Au niveau plancher, là, c'est assez haut. Même chose pour Silaiev. Puis, il y a des équipes de la Ligue nationale qui ont très confiance en leur développement. Puis, tout ce qu'ils cherchent chez les défenseurs, c'est vraiment les atouts, là. Ils vont regarder le patin, le reach, tout ça. Fait que dès qu'ils ont ça, ça leur dérange un peu moins que les défenseurs ne soient pas nécessairement complets en termes de hockey sense pour l'instant parce qu'ils ont confiance, ils sont capables de développer son côté tactique et tout ça. Ça dépend vraiment. Il y en a d'autres. On a reçu des commentaires de School de la Ligue nationale qui ne l'aiment vraiment pas, de Dickinson, à cause de son hockey sense, là, qui est très bas sur leur liste. Mais il y en a d'autres qui est super haut. Puis il voit que tant qu'il va jouer dans un système qui est solide, puis le jeu va être assez prévisible pour lui parce qu'il joue dans une bonne équipe, ben ça va être suffisant. Là, puis il va devenir un défenseur peut-être de première paire avec ça. Fait qu'il va plancher assez haut. On verra selon le Hockey Sense où est-ce qu'il va monter dans l'alignement. Là.
Puis là, écoute, je t'ai parlé de deux joueurs. J'ai dit qu'il y en a deux. Fait que le deuxième, c'est Zane Perrick. Puis là, je veux avoir un peu ton avis là-dessus. Zane Perrick, déjà, est-ce que quand on parle purement d'offensive, selon toi, c'est le meilleur défenseur offensif de la QV cette année? Puis, défensivement parlant, est-ce que ses problèmes sont si gros que ça? Parce que des fois, on entend parler certains scouts ou bien certains amateurs, peu importe, des gens qui donnent leur opinion sur les espoirs, puis on dirait que c'est un joueur qui est une passoire complètement en défense. Puis là, on en entend d'autres parler qui le mettent beaucoup très haut, puis qui disent c'est sûr que ça ne sera pas le meilleur défenseur en termes de défense dans le repêchage, mais sa défense, c'est exagéré à quel point elle est mauvaise. Fait que c'est toi, où est-ce que tu te ranges un peu là-dedans?
Plus dans la deuxième catégorie, honnêtement. Je trouve qu'il n'y a pas un si gros gap présentement entre Parek et Dickinson là, au niveau de la défense même. Là. Puis nos stats qu'on track durant la saison, ça match pas mal ça aussi. Là. C'est juste que Parek il a l'air d'être nonchalant. Vraiment, là, sa posture très haute, il ne plie pas les genoux du tout en zone défensive. Il attend beaucoup que le jeu vienne à lui. T'sais, c'est un joueur uniquement cérébral. Fait que ça a l'air moins bon à la base. Son allure est moins bonne. Puis ça, c'est des points négatifs là, que les scouts vont regarder ça et vont faire comme il n'y a pas l'air de s'en soucier autant là, du jeu défensif. Fait que, en termes d'efficacité aussi, c'est pas le meilleur. C'est vraiment une faiblesse pour lui, le jeu défensif. Je ne veux pas mettre ça comme s'il était très bon, mais je pense que c'est. Il y a des gens qui mettent ça trop gros comme faiblesse aussi parce que. On l'a vu à la Coupe Memorial, il est capable de jouer physique. Tu vois qu'il y a une attention quand même aux détails jusqu'à un certain point en jeu défensif. Puis il est capable d'anticiper bien le jeu aussi. Fait que son côté offensif qui lit bien le jeu, ça se transpose défensif aussi dans certains moments. Nous, à Elite Prospect, ce qui est plus important, c'est pas tant la constance d'un joueur, mais plus c'est ces flashs qui sont plus impressionnants. Là. Si on voit qu'un joueur, plusieurs fois dans la saison, est capable de faire des bons stops là, sur le rush, est capable de faire des bons pivots, est capable d'avoir un bon bâton dans certaines games, mais on se dit que. Avec le développement, va venir la constance. Puis après ça, on projette le joueur que oui, il va s'améliorer dans cette direction-là. C'est pas toujours le cas, mais en général, cette formule-là fonctionne mieux que regarder performance par performance comment il s'est comporté parce que c'est long une saison. Puis un prospect, des fois, comme Parek, qui est très bon par rapport au calibre de jeu, des fois, il va pas porter autant d'attention aux détails dans la zone tout le temps nécessairement. Mais les flashs sont là. On voit qu'il aime de jouer physique. Il y a un côté mime, là, vraiment assez méchant des fois, là, sur le long des bandes, en avant du filet. Pas autant qu'un défenseur qui est comme 6 pieds 3, là, comme Lev Shunov, que ça se projette bien dans la Ligue nationale, mais on voit qu'il veut pas se laisser passer sur le corps nécessairement en avant du filet. Fait qu'il y a suffisamment d'atouts en défensive pour qu'on projette qu'il devienne soit comme average dans la Ligue nationale ou un petit peu en bas, puis que son offensive va quand même faire en sorte qu'il va avoir des très bons résultats. Là, si on compare, en fait, si on additionne les deux, ça va devenir un bon play driver quand même. Là.
Puis, écoute, dans pas mal des listes, la vôtre, la mienne que j'ai faite, que j'ai pas encore sortie, mais qui est faite moins en profondeur que la vôtre, là, mais j'ai quand même un top 15 de fait. Puis dans presque toutes celles que j'ai vues, Parek est quasiment tout le temps plus haut que Bouillon, qui serait un peu... sa compétition, si on peut dire ça comme ça, dans le sens de qui est le meilleur défenseur offensif, est-ce que c'est Parek, est-ce que c'est Bouillon? Qu'est-ce qui fait donner un peu le edge à Parek? Qu'est-ce que tu penses que Parek a, que Bouillon a pas? Puis est-ce que tu penses que Bouillon, quand on le regarde à un niveau professionnel, là, admettons, si ça marche, est-ce que tu le vois vraiment comme un défenseur qui est offensif ou bien tu le vois comme quelqu'un qui développe un jeu un peu plus two-way pour réussir?
Je pense que ça va être plus two-way pour Bouillon. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez intéressant parce que Bouillon, il a l'air impressionnant dans la NCAA avec les moves qu'il va faire, des fois à la ligne bleue, là, parce qu'il est très... Il va attendre la pression, il va amener un défenseur vers lui, il va faire un espèce de spin, puis après ça, il va s'échapper et tout ça. Mais son patin n'est pas explosif. Là. Il a un petit peu de mobilité, là, il bouge comme ça nécessairement, mais il n'y a pas autant d'explosivité que Zane Parek, qui va vraiment attirer la pression puis s'en séparer en 2-3 enjambées. Bouillon, c'est comme 4 ou 5. Là. Fait que ça va être plus difficile pour lui dans la Ligue nationale, mais je pense qu'on avait sous-estimé le hockey sense de Bouillon en entrant dans la saison. Puis on l'a graduellement augmenté. Puis dans ses dernières performances là, en série, c'est vraiment impressionnant. Là. Je ne pense pas que son playmaking va être aussi bon que Parek, mais en termes de zone défensive, là, dans les derniers matchs qu'il a joué, c'était vraiment très solide. Là. Sa capacité à suivre son couvreur, ben, en suivre son homme dans la zone défensive, à utiliser son bâton, à faire des lectures de jeu plus avancées, puis être capable de à la fois suivre la rondelle puis son homme. Est-ce que c'est des choses que Parek a plus de difficultés présentement? Bium, il demande moins de projection par rapport à ça, fait que je pense qu'il va être plus solide two-way. Puis j'ai vraiment un bon feeling avec lui, là. Des fois, faut pas trop s'en fier à ça, parce que des fois, tu as un bon feeling par rapport à un joueur, puis ça devient absolument rien. Mais avec lui, là, il est confiant, il a joué un très haut niveau déjà là, dans les séries de la NCAA. C'est vraiment un bon calibre de jeu, puis tu vois qu'il était déjà solide, là. Je pense que c'est un défenseur qui va arriver, peut-être pas, il sera pas l'année prochaine, mais l'année d'après, puis il va vraiment surprendre tout le monde, puis il va monter très haut en Ligue Marche, parce qu'il y a le hockey sense. Il n'y a pas le patin excellent, mais c'est suffisant. Puis il y a un impact vraiment partout. Fait que je pense pas que, à cause de son patin, il va être aussi bon que Parek en zone offensive. Je pense pas qu'il y a les mêmes reads nécessairement, mais tout le reste de la game va être plus solide. Puis, ce sera pas Adam Fox nécessairement, mais je pense qu'il y aura un petit peu le même impact général que ce défenseur-là, puis le même style de jeu un petit peu là quand même. Fait que très intéressant. C'est juste que Parek est plus créatif, meilleur patin, puis il va, à la manière dont il contrôle la rondelle, puis les jeux qu'il fait, ça se transpose beaucoup mieux dans les nationales aussi, là.
Puis j'ai l'impression, Bouyim, c'est juste que, honnêtement, tu sais, il dépend beaucoup de sa première passe qui, tu sais, comme tu dis, sa lecture du jeu, elle est bonne. Fait que ses premières passes, souvent, sont excellentes, mais c'est que quand tu dépends là-dedans puis t'es en train d'apprendre, ça veut dire qu'il y a des games où tu vas arriver puis 3-4 fois pendant la game, tu vas faire la passe directement sur la palette de l'autre équipe. C'est un problème qui c'est pas nécessairement le plus gros à régler, mais c'est que ça saute aux yeux. Tu sais, même quelqu'un qui connaît pas trop les prospects, il va regarder ça puis il va dire « Hey, lui, là, je le veux pas sur ma ligne, tu sais, c'est trop un risque. » Fait que j'ai l'impression que c'est plus ça aussi qui pourrait faire exagérer aux gens l'aspect défensif de Bouillon. Pas nécessairement le jeu quand il est installé, juste les petites erreurs comme ça. Puis tu sais, même quand Caden Goulet est arrivé à Montréal, là, dans les matchs de pré-saison, dans les premiers matchs de la saison, on le voyait aussi, lui, beaucoup faire une fois de temps en temps, faire une passe horrible, tu sais, essayer de relancer l'attaque, puis finalement, ça tombe dans l'autre équipe. Puis, en tout cas, c'est juste des erreurs que c'est vraiment... Tu peux pas plus sauter aux yeux que ça. Là.
Il y a vraiment un style de jeu très différent en breakout. Parek est très conservateur en breakout. C'est un peu étrange pour un défenseur autant offensif. Il va faire beaucoup de rim, puis il va envoyer la rondelle le long de la bande. T'sais. Il cherche pas à faire des jeux vers le milieu nécessairement, mais Bium, sur son équipe, faisait beaucoup de jeux vers le milieu. Fait que, il est devenu très, très bon en breakout, mais il fait plus d'erreurs aussi. Fait que c'est une question. Il fait des jeux à plus haut potentiel, mais qui ont plus de risques aussi. Mais en même temps, il développe beaucoup ses habiletés-là. Fait que ça se peut qu'il devienne très bon dans la Ligue nationale, mais en même temps, il n'y a pas le patin excellent pour refaire ces jeux-là dans la Ligue. Fait que, il y a des points d'interrogation là, mais en même temps, j'ai quand même confiance que ces breakouts vont devenir assez bons là.
Écoute, maintenant, la Memorial Cup, ça fait pas mal le tour. Puis en plus, on a parlé de Bouillon qui était en finale de la NCAA. Mais avant de te parler des gros noms du repêchage de cette année, là, les grands défenseurs, il y a tellement de joueurs excitants. Je voulais te demander, écoute, on a beaucoup de fans du Canadien qui regardent, c'est sûr, parce que c'est en français, on est au Québec. Je voulais juste te demander, écoute, pour le cinquième pick, on pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais juste avoir ton avis sur un joueur qu'on pourrait potentiellement voir sortir, mais pas avec le pick numéro 5, le deuxième pick du Canadien, donc celui à la fin de la première ronde. Est-ce qu'il y a un joueur que tu observes un peu qui fit très bien avec le Canadien et qui pourrait potentiellement être disponible dans ces eaux-là?
Ouais, c'est une bonne question. Ce qui serait vraiment drôle et excitant à regarder, ce serait si le Canadien repêche Caden Lindstrom numéro 5 puis qui sélectionne Andrew Bashaw avec le deuxième pick qui joue sur la même ligne. Alors, c'est rare qu'on voit ça, là, deux joueurs qui vont continuent à jouer ensemble du junior vers la Ligue nationale, mais ils sont vraiment des skill sets qui sont très complémentaires. Là. Sur leur ligne, Lindstrom, c'est plus le scoreur, le power forward, puis Andrew Bashaw, c'est lui qui a transporté la rondelle. C'est lui qui a transporté le plus de rondelles avec le plus d'efficacité dans la CHL cette saison, Bashaw. C'est vraiment un joueur de transition, puis c'est un excellent playmaker. Là, puis sa capacité de faire des passes comme ça, d'attirer la couverture, puis de faire des passes à travers les défenseurs, c'est juste amélioré durant la saison, puis c'est devenu de plus en plus exceptionnel. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment un peu moins. Il y a plus de risques parce qu'il va avoir tendance à avoir des tendance junior un petit peu, là, comme essayer de trop en faire avec la rondelle, déjouer plusieurs défenseurs. Il va beaucoup se baser sur sa vitesse pour faire des jeux, puis cette vitesse-là sera pas, son écart de vitesse avec les autres ne sera pas aussi grand dans la Ligue nationale que dans le junior présentement, mais il l'a, c'est sa vitesse, c'est quelque chose qui est vraiment high-end dans son jeu, capacité de faire des excellentes transitions aussi. Puis il y a ce playmaking-là. Fait qu'il y a en masse d'éléments top 6 en national pour être un pick de première ronde. Puis si jamais ça ne fonctionne pas avec lui, son jeu plus étiquette étiqueté top 6, ben, il y a aussi des capacités à faire, à amener beaucoup de pression sur l'adversaire, être bon en forecheck, être un joueur two-way. Fait qu'il y a un potentiel de top 6, puis si ça ne fonctionne pas, il y a aussi un B-game, qu'on appelle, là, qui est capable de, un espèce de plancher, capable de recycler un peu ses atouts pour jouer un autre rôle dans le line-up. Fait que ça va augmenter sa valeur au niveau du repêchage. Fait que je pense que ce serait vraiment un joueur à qui probablement sera la liste du Canadien, parce que des fois, il aime ça, le repêcher l'ami ou le coéquipier. Ouais. On pourrait voir ça. Il y a plus de chances que dans d'autres repêchages que ça se fasse. Là.
Puis, écoute, question par curiosité pour toi, parce que moi, comme j'ai dit tantôt, je fais une liste, mais vraiment juste de début de repêchage, parce que je couvre trop de choses pour vraiment avoir une liste complète. T'sais, je pourrais pas te faire un mock draft, admettons, de 4 rondes. J'ai pas le temps pour ça, puis aussi les accès. Mais ça fait que quand on arrive à la fin de la première ronde, ça rend un endroit où, tu sais, il y a des joueurs que je connais super bien puis des joueurs que je connais moins bien. Puis là, je voulais te parler d'un gars que moi, écoute, Yegor Zorin en MHL, je connais pas super bien la ligue. C'est vraiment cette année, tu sais, avec Demidov puis Zorin, c'est sûr qu'on en a un peu plus vu, mais c'est pas une ligue avec laquelle le niveau, je suis super à l'aise. Puis, en plus, tu sais, dans l'endroit où il est projeté, il y a beaucoup de gars avec lesquels je suis moins familier, mais est-ce que... Moi, j'aime beaucoup l'énergie qu'il amène. J'aime beaucoup les choix qu'il prend. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment... Après, les choix qu'il prend, pas en termes de pénalité. Là, à ce point-là, il est un peu énervé. Mais tu sais, vraiment, quand on parle de hockey sense, les jeux qu'il fait, où est-ce qu'il se positionne, c'est quelque chose... J'aime beaucoup ce joueur-là. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qu'on pourrait potentiellement voir aussi sortir par surprise à la fin de la première ronde? Ou bien il y a des gros drapeaux rouges qui font en sorte que c'est vraiment un gars de deuxième, potentiellement, écoute, je pense pas, mais potentiellement troisième ronde aussi.
Ce qui est arrivé avec Surin durant la saison, c'est qu'on l'a descendu beaucoup. Au départ, on l'aimait tous vraiment beaucoup. On pensait que son hockey sense était quand même assez bon. On voyait ses feintes créatives. Il y a toujours son moteur aussi, il travaille fort. Là. Puis ça, c'est bon. C'est plus rare en MHL, qui est la Ligue junior russe, parce que les joueurs vont beaucoup se fier sur leur habilité, puis c'est beaucoup un jeu dans des espaces libres. Il y a moins de joueurs qui ont un bon moteur comme lui. Fait qu'à la base, il se distingue. C'est juste que quand il est arrivé plus vers les séries, parce que là, il rencontrait des équipes plus fortes un petit peu, je commençais à avoir des doutes sur son hockey sense. Là. Quand les défenseurs se rapprochaient de lui, il y avait moins d'espace pour créer. On voyait qu'il y avait plus de difficultés à spotter les bons jeux. Puis c'est aussi le problème de la MHL, c'est que tu te mets à avoir des mauvaises habitudes durant la saison parce que c'est facile de déjouer les défenseurs. Tu peux en déjouer 2-3, même si tu as des bonnes habiletés. Puis quand tu arrives face à des clubs meilleurs, ben des fois, tu gardes ces habitudes-là puis ça ne fonctionne plus. Fait que c'est un peu plus difficile d'évaluer le hockey sense. Puis c'est la même chose pour Demidov, malgré que je suis un peu certain que c'est vraiment quelque chose d'élite dans son jeu pour Demidov. Mais Sherwin, j'ai plus de doutes. Ce qui va lui rester, c'est sûr, c'est que son patin est quand même assez bon. Moi, je le qualifie comme de moyen, mais dans le sens moyen Ligue nationale. Fait que c'est suffisant pour jouer un jeu de pression et tout ça. Il y a son moteur, il y a son éthique de travail, puis il y a ses mains, qui reste vraiment des choses intéressantes. Fait que je pense qu'il y a suffisamment d'atouts pour être au moins un joueur de deuxième ronde. C'est juste que le petit boost qu'il avait du Rocky Sands, qui l'amenait peut-être proche de la première ronde pour nous, là, il ne l'avait plus à la fin de la saison. Ouais. Comme retirer ça, fait qu'il est resté comme autour de entre 50 et 60, je pense. On l'a plus loin que d'autres recruteurs. Je sais qu'il y a des recruteurs de la Ligue nationale qui l'aiment beaucoup, par contre. Fait que ça se peut que vraiment, là, première ronde, fin de première ronde, ça se peut. C'est un joueur un peu à la Easton Cohen, mais en version un peu moins sûre. Là. Et ça ressemble quand même un petit peu en termes de type de joueur. Là.
Puis écoute, là, on a parlé vraiment, c'est drôle, on a fait comme à l'envers. On a parlé des gars de, tu sais, justement, que vous avez classés autour du 50e, fait que des gars qu'on pourrait revoir sortir en deuxième ronde, puis la fin de la première ronde. Là, écoute, quand on regarde le début du repêchage, là, ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de grands défenseurs avec un bon skating qui sont disponibles. Fait que sans vraiment nommer de nom, tu sais, dire, ah, lui, je l'aime pas à cause de ça. Quand on regarde cet archétype de joueur-là, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus gros drapeau vert que tu peux voir chez cet archétype de joueur-là, tu sais, sans que ce soit nécessairement ces trois-là en particulier?
On pourrait en parler pendant des heures, ça, parce que c'est vraiment c'est une réflexion qu'on a eue pendant longtemps avec les prospects avant de changer comment on voyait ces joueurs-là. Là. Dans nos premières années, on était comme, ben si ces joueurs-là manquent de hockey sense, pour nous, on les descend vraiment beaucoup sur notre liste. Puis là, on se trompait. Ce qui est arrivé, là, c'est qu'on s'est rendu compte que tant que tu as un patin qui est vraiment très bon et que tu as beaucoup de range, ben, dans l'Ligue nationale, être un défenseur avec ces deux atouts-là, c'est beaucoup plus facile qu'être un attaquant, mettons, qui doit attaquer dans la pression, puis faire des jeux en espace très restreint. Les défenseurs, ils ont un jeu en avant de eux, ils jouent dans le système. C'est plus facile de suivre les guidelines, puis quand même t'en sortir. Fait qu'on a arrêté de de mettre autant d'importance sur le Hockey Sense. Fait que ça fait en sorte que des joueurs comme Sam Dickinson, Artem Letlev-Shunov, Anton Tsilaev, ils se retrouvent quand même assez haut sur notre liste, malgré qu'on a des doutes sur leur capacité à lire le jeu quand même. Là. Il y a beaucoup de défenseurs qui ont des atouts extrêmement bons dans cette classe-là, qui ont des doutes sur leur Hockey Sense, dont eux. C'est pas des doutes extrêmes. Là. On les projette comme ayant... Bon, à part pour Tsilaev, on y reviendra. Lui, c'est vraiment plus extrême en termes de doutes sur leur Hockey Sense. Mais Dickinson, Levchunov, Dickinson, on le projette comme lecture de jeu environ average dans les nationales. Levchunov, ça fait pas longtemps qu'il était en Amérique du Nord. Ça fait comme juste 2 ans qu'il joue vraiment compétitif. Il y a comme plus de potentiel de développement en avant de lui. Là. Il n'a pas encore intégré la game tactique autant que d'autres. On voit qu'il y a plus de potentiel de développer ses reads. Fait que lui, on l'a mis comme on le projette qu'il va devenir quand même assez intelligent dans les nationales. C'est pour ça que c'est notre premier défenseur. Ce qui se passe avec Tsilaev, c'est qu'il y a des atouts les meilleurs du draft. Là. C'est un des meilleurs patineurs du draft. Il a extrêmement beaucoup de range avec son 6 pieds 7. C'est vraiment c'est un vrai unicorne là, parce qu'on voit ça. J'ai presque jamais quelqu'un qui patine aussi bien à cette taille-là. Le problème, c'est qu'il ne fait pas de... En fait, plus la saison avançait, plus il a perdu sa capacité à faire des jeux avec la rondelle. Vraiment, là, toutes ses reads s'en allaient offensivement. Son jeu défensif s'est amélioré en termes de lecture de jeu. Il est capable de jouer pas nécessairement juste un contre un contre quelqu'un qui contrôle... contre un attaquant qui a la rondelle, mais aussi jouer plus en reculé dans le jeu, puis faire des bons reads avec son bâton, trouver les bonnes lignes de passe et tout ça, les couper. Ça, il s'est amélioré là-dedans. Fait qu'il y a un Hockey Sense défensif quand même qui se projette bien dans la Ligue nationale. On est presque certain qu'il va devenir un bon joueur shutdown. Mais en termes d'être capable de relancer l'attaque, faire des reads au niveau offensif, ça a presque tout disparu à la fin. Puis même dans la MHL, à la fin, là, quand il jouait plus contre des joueurs professionnels, c'était pas là du tout dans son jeu. Fait qu'on a beaucoup descendu son Hockey Sense. Là, on se projette comme quelqu'un qui va lire le jeu correctement pour jouer dans l'international, mais pas être capable de vraiment pousser l'attaque du tout. Par contre, quand quelqu'un a joué contre des professionnels comme ça toute la saison, des fois, c'est juste que ces capacités-là, ils sont cachées, puis ils vont ressortir plus tard, puis ça se peut qu'avec un bon développement, ils soient capables d'être enseignés ces habiletés-là, parce qu'il y a encore là, le plus que tu as d'atouts, le plus que tu as de jeux accessibles pour toi, le plus que la game est facile, le plus que c'est facile d'avoir un bon développement par la suite. Il faut faire attention de ne pas trop le descendre, mais nous, on l'a comme 12e au lieu de l'avoir top 10. Ouais. On met plus de risques dans sa projection que d'autres. Il y a des scouts de la Ligue nationale qui s'en foutent complètement du Hockey Sense, honnêtement, qui vont le mettre 2e. Puis, je voyais même comme des gars comme Corey Pronman qui mettait son Hockey Sense above average.
Mais vraiment... sur sa liste, je pense qu'il est 2 ou 3. Là. Il est vraiment, vraiment très haut. Très, très
c'est
haut.
C'est ça. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'il est capable de prendre des bonnes décisions avec la rondelle. Il ne prend pas de risques. Mais pour moi, ce n'est pas ça, le Hockey Sense. Ce n'est pas la capacité à faire des jeux conservateurs. C'est la capacité à faire des jeux positifs qui vont amener plus d'offense, qui vont éviter que tu passes trop de temps en zone défensive parce que tu redonnes la rondelle à l'adversaire. T'sais, oui, c'est correct de faire un rim selon de la bande, mais moi, je veux que ça crée un avantage pour ton équipe. Fait que pour moi, la capacité à créer des avantages, c'est vraiment ça le Hockey Sense. Tsilaev, il l'a pas du tout. C'est presque à zéro présentement. Ça se peut qu'il le développe, mais quand c'est plus incertain, on préfère mettre un joueur un peu plus bas puis attendre de voir qu'est-ce qui se passe.
Ouais, mais je pense, dans le débat, Tsilaev, Levchunov, ce que beaucoup de personnes diraient, pourquoi est-ce qu'ils diraient qu'ils ont mis Levchunov plus haut, puis écoute, j'ai beaucoup de personnes, je pense que j'en fais partie pas mal, c'est le potentiel aussi des deux bords, des deux côtés de la patinoire de Levchunov et versus Tsilaev. Peut-être qu'à la fin de la journée, si les deux se rendent à la LNH puis rentrent dans leur potentiel, Tsilaev va être un peu meilleur défensivement que Levchunov. Mais dans la zone offensive, les chances qu'il amène autant que Levchunov sont vraiment très, très, très moindres, là, malgré sa capacité de patiner. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Puis écoute, de ce que tu me dis en ce moment, je comprends que tu penses même que en ce moment, c'est difficile à comparer parce qu'ils ne jouent pas dans la même ligue, là, mais si on prend Levchunov et Tsilaev, tu penses que même défensivement, en ce moment, Levchunov a déjà un edge sur Tsilaev?
Je pense pas. Ouais, je pense que ça va être vraiment Tsilaev qui va remporter tous les concours défensifs du draft là, parce qu'il y a trop d'atouts. Là. C'est trop facile pour lui. Là. Dans le moment qu'il est capable de lire un petit peu le jeu, il va être capable de faire des jeux là, défensivement parce que même s'il est une seconde en retard, là, il tire son bâton et il enlève la rondelle à quelqu'un. Fait que, à un moment donné, ça devient très facile pour lui. Fait que je pense que ça va rester lui qui projette être le meilleur défensivement. Mais c'est sûr que à un moment donné, les joueurs dans l'international, ils vont connaître ses atouts. Puis un long bâton, des fois, c'est facile de faire un jeu en dessous du bâton parce que tu as plus d'espace. Fait que ça se peut que progressivement, les joueurs se mettent à connaître ses atouts puis qu'ils finissent par trouver des manières de les contourner. Mais ça, on verra vraiment dans les trop grandes projections. Là. Ouais. Mais à date, là, avec les éléments qu'on a en face de nous, ce serait vraiment Tsilaev qui serait le meilleur défensivement. Mais le gap offensif est tellement important avec des défenseurs comme Tsilaev, Dickinson, Parek, je pense pas qu'en termes de résultat total, ça va être aussi bon. Fait que je préférais avoir Levchunov, qui est un peu peut-être qui projette être un peu moins bon défensivement, mais qui a beaucoup plus de potentiel offensivement que Tsilaev qui est juste défensif. À moins que je sois une équipe que j'ai déjà énormément de joueurs super offensifs, puis que je sais que Tsilaev va arriver dans mon équipe, qui va jouer un rôle parfait avec un autre de mes défenseurs qui est très offensif, puis que je sois avancé dans ma reconstruction. Fait que, je pense que dans ce draft-ci, plus que dans d'autres drafts, le fit dans l'équipe a beaucoup plus d'importance parce que les joueurs qui sont sur notre liste entre 3 et comme 15, ils ont environ la même valeur. Là. C'est juste une question de où est-ce qu'ils vont aller. Ça va avoir une importance encore plus grande que dans d'autres drafts, je pense.
Puis écoute, on a parlé là des prospects défensifs les plus excitants. J'aimerais t'en parler de deux, justement, que je t'en ai parlé un petit peu avant le show. Je suis vraiment content de finalement pouvoir comparer ces deux joueurs-là parce que depuis le début de la saison, j'essaie de le faire, mais il faut trouver des gens avec qui le faire. Puis écoute, des joueurs défensifs sont peut-être un tout petit peu moins excitants, plus de travail à faire, mais qui pourraient devenir quelque chose tout de même. En tout cas, un des deux, à mon avis. Je vais te parler de la comparaison entre deux grands défenseurs québécois. Je pense les deux des défenseurs québécois les mieux rankés dans... Le vôtre, je n'ai pas regardé où est-ce qu'il était, mais beaucoup. Alexis Bernier et Thomas Lavoie. Comme je t'expliquais au début du show, moi, quand je suis rentré cette saison en les regardant, au début de la saison, là, en ayant Thomas Lavoie, je l'avais vu un petit peu jouer l'année dernière, a été un peu déçu parce que c'était le premier pick au repêchage, mais quand même, je suis arrivé avec des attentes. Je me suis dit, OK, Thomas Lavoie, un peu à la... pas comme Alev Chounov, Tsilaev, mais un peu. Alexis Bernier va être un peu moins bon défensivement, mais va amener un tout petit peu plus d'offense versus Thomas Lavoie qui va être shutdown défensif, mais que l'offense, ça va être un gros défi. Puis finalement, selon moi, même défensivement, Alexis Bernier a un avantage sur Thomas Lavoie, puis pas nécessairement parce qu'il manque, parce qu'il est plus physique ou il plaque mieux, juste parce que Thomas Lavoie a tendance à tout le temps se coincer dans sa zone. Quand il arrive à avoir la puck, tu sais, c'est super bon, tu arrives à pousser l'autre joueur, récupérer la rondelle, tu as un super bon bâton, fait que tu récupères la puck, mais on dirait que souvent, il n'arrive pas à faire la passe pour sortir, il n'a pas les capacités lui-même, fait qu'il reste coincé dans la zone, fait que finalement, sa récupération de rondelle ne sert pas à grand-chose. Fait que je serais curieux d'avoir ton avis sur justement ces deux joueurs-là.
Ouais, en fait, je pense que c'est une excellente transition parce que ça, on voit vraiment la même réflexion là, qui se transpose de Lev Chounov à Tsilaev parce que ça, il y a quand même un parallèle à établir avec les deux joueurs québécois que tu as nommés. Thomas Lavoie, moi aussi, j'étais un peu déçu cette saison. Je suis quelqu'un qui met beaucoup en valeur les atouts pour un joueur qui est de type défensif comme ça. Quand tu mesures 6 pieds 4, je me souviens plus exactement, là, il est très grand. C'est ça. Puis son patin est quand même correct. Je me disais, ça va être facile la prochaine Ligue nationale. Je vais pouvoir le mettre quelque part entre 50, 70 sur ma liste. Ouais. Puis faire comme, ah ben ça va être un futur numéro 5, numéro 4. Puis finalement, il n'est pas sur notre liste du tout. Parce que son jeu est trop en arrière en termes de développement par rapport à d'autres joueurs. Là. Il s'est beaucoup concentré, j'ai l'impression, sur son jeu défensif. Mais tu as entièrement raison. Le jeu défensif, c'est important. Mais tu dois pouvoir. En fait, le facteur qui fait en sorte que tu es un bon défenseur défensif, c'est que tu limites l'adversaire à une seule chance. Par exemple, il arrive en zone offensive, ils font un shot au net qui n'est pas super bon, tu arrives à prendre la rondelle, à sortir de la zone. Il y a une seule, c'est one and done, une seule chance. À ce moment-là, si tu arrives à faire ça, l'idéal, c'est de ne pas avoir de chance de marquer du tout, mais l'idéal, ce qui est bon aussi là-dedans, c'est de ne pas avoir donné à l'adversaire des chances une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Puis Thomas Lavoie, c'est ça qui se passe un petit peu parce que son jeu avec la rondelle est sous-développé. Son patin n'est pas assez bon pour le projeter malgré ses faiblesses-là. Si son patin était vraiment above average en termes de projection dans la Ligue nationale, je n'aurais pas ces doutes-là. Là. Mais là, il est comme average un peu en bas, ses pivots, c'est un petit peu difficile des fois, puis son jeu avec la rondelle, il est juste bon dans certaines situations en zone offensive que là, il est capable de faire des fois un peu de... il va donner la mauvaise information à un défenseur, faire semblant de faire un shot, puis il va envoyer la rondelle à un coéquipier. Il est capable de faire ça, distribuer quand même jusqu'à un certain point. Mais quand il y a de la pression sur son dos, en breakout, par exemple, la pression vraiment très immédiate, il perd un peu ses moyens. Là. Fait que, il y a trop un focus sur le jeu défensif. Il manque un peu d'habileté avec la rondelle, puis son patin n'est pas suffisamment bon pour qu'on l'intègre sur notre liste. On a quand même donné un code de C, ce qui veut dire qu'il est un bon pick dans les rondes comme peut-être 4 à 6, quelque chose comme ça. Là. Puis je peux voir entièrement là, une équipe de la Ligue nationale le sélectionner. La différence avec Alexis Bernier, c'est qu'Alexis Bernier, il y a les détails. En plus, ses tours ne sont pas aussi bons que Thomas Lavoie, peut-être en projection. Il n'est pas aussi grand, mais son patin est un peu meilleur quand même. Au niveau détail de jaune défensif, là, en fait, je regrette même de l'avoir mis aussi loin sur ma liste parce qu'honnêtement, il est tellement solide. Il est tellement solide dans ses reads. Il va suivre le jeu. Il est capable de défendre des situations qui étaient à un contre deux, même de son côté de la glace. Puis il panique jamais. Puis ses premières passes sont excellentes. Puis on n'a pas vu beaucoup son offensive, malgré qu'il jouait pour une formation très forte, parce que Bécomo, c'était beaucoup de l'offensive qui venait des attaquants, mais il y en a des skills, là. Il est capable de faire des feintes à la ligne bleue, puis il relance super bien le jeu, il est capable de jumper dans le jeu aussi. Fait que pour moi, il y a beaucoup de potentiel, Alexis Bernier. C'est juste que, bon, il y a pas, honnêtement, c'est un peu plate, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs de la Q qui deviennent des bons défenseurs de la Ligue nationale récemment. Dans mon travail, je n'ai comme pas le choix de regarder ça aussi un petit peu, puis je le rends dans mes calculs aussi quand je fais mes rankings. Je vais des fois descendre un petit peu certains joueurs qui vont jouer dans des ligues qui se projettent un peu moins bien dans la Ligue nationale, puis présentement, c'est un peu le cas pour la LHGMQ, pour les défenseurs, vraiment. Fait que j'ai tendance à être un peu plus conservateur. On l'a comme dans les 80, entre 90 puis 100, mais honnêtement, juste en regardant ses atouts, ses habilités, la manière dont il a joué cette année, c'est quelqu'un qu'on aurait pu avoir entre 50 et 70, un peu comme où est-ce que je projetais Thomas Lavoie, parce que les détails sont là, il y a suffisamment d'habilités Ligue nationale, puis il fait des jeux plus avancés, puis très solide défensivement. Là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Un de mes picks préférés là, dans le draft.
Moi, Alexis Bernier, c'est juste j'ai vraiment hâte de le voir évoluer dans un différent système de hockey. Pas pour critiquer celui de Bécomo, mais ils sont vraiment sur la relance. Puis écoute, ils sont allés en finale de la LGMQ, ça a super bien marché pour eux. Là. Puis avec des joueurs comme Justin Poirier, c'est sûr, c'est idéal. Mais pour un gars comme Alexis Bernier, ça fait que c'est un petit peu moins... T'sais, admettons, s'il jouait pour Toronto, peut-être qu'on le verrait beaucoup dans un rôle comme ça, mais dans une équipe LNH en général, c'est moins dans ce rôle-là qu'on va voir. Fait que j'ai hâte de voir l'aspect offensif qu'il peut amener quand justement on a plus de temps pour s'établir en zone, il y a plus de temps pour réfléchir, faire ses passes, c'est plus de jeu à la zone bleue. Mais en même temps, d'un autre bord, ça m'intéresse aussi parce que beaucoup de ses points, ça vient du fait qu'il y a une super bonne vision pour les premières passes. Fait que quand tu es dans une équipe qui joue énormément sur la relance, la contre-attaque, ces petites passes-là, ils marchent vraiment bien. Fait que j'ai hâte de voir quand on le change puis on le met dans un système de jeu peut-être plus conventionnel, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que ça donne offensivement? Parce que défensivement, je pense que ça va rester quand même solide. C'est sûr que j'aimerais ça le voir frapper un tout petit peu plus, mais je pense que globalement, c'est quand même assez, assez bien.
Ouais, je l'aime beaucoup, comme je dis. Vraiment un joueur surveillé, là.
Puis, écoute, pour rester sur Bécomo, je voulais te poser, écoute, une dernière question sur un des joueurs du repêchage 2024. Justin Poirier, justement, j'en ai parlé, qui shine vraiment dans la contre-attaque. C'est un joueur, tu sais, 50 buts cette année à LHGMQ. Cet aspect-là est incroyable. Je pense que, tu sais, personne va dire que son tir est faible. Il y a vraiment un tir excellent. Son positionnement est excellent. Il sait où se placer pour marquer. Puis je trouve que, tu sais, son playmaking, c'est sûr que c'est pas ça l'aspect numéro un de son jeu, mais quand même présent. Là, le gros défi avec Justin Poirier, ça va être comment amener ce jeu-là, puis cette efficacité-là à un niveau pro. Fait que si je me demandais, toi, comment tu penses ça va être quoi ses plus gros défis, puis comment est-ce que tu le projettes un peu dans le futur? Parce que j'ai pas l'impression que c'est le type de gars que tu vas prendre, puis que tu dis, ce gars-là, ça va être sur mon quatrième trio.
Non, c'est vraiment assez. C'est top 6 ou peut-être qu'il ne jouera pas. Là. C'est plus difficile de projeter Justin Poirier. On l'a quand même assez haut sur notre liste comparé à d'autres. Là, entre 40 puis 50, quelque chose comme ça. Il a été dans notre top 40 pendant un bout de temps parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Ça mérite qu'il soit drafté quand même assez haut parce qu'il y a les atouts spéciaux que tu préfères prendre ces joueurs-là que quelqu'un qui va projeter sur un quatrième trio, là, honnêtement. Là. Prends Justin Poirier au lieu de d'autres, que c'est vraiment peut-être qu'ils vont jouer, mais ils ne t'apporteront pas grand-chose de plus qu'un joueur que tu vas prendre sur les waivers, par exemple, aussi bien prendre le marqueur de 50 buts. On n'a pas vu beaucoup son playmaking cette année, Justin Poirier, même si je pense que c'est là, parce qu'il cherchait vraiment à rejoindre le plateau des 50 buts. Fait qu'il tirait tout au filet, constamment. C'est un peu la même affaire que Cole Eiserman du côté américain. Ouais, ouais. Quand il cherche un record comme ça, ben, c'est sûr que là, des fois, il y a certains éléments de leur game que je pense qu'on un peu moins, mais c'est présent dans son jeu. Pas autant que d'autres scoreurs qui sont vraiment des dual threats, dans le sens qu'ils vont être aussi bons en playmaking qu'en tir puis en marqueur, mais je pense que c'est quand même présent suffisamment dans son jeu. Puis la différence entre Poirier puis d'autres joueurs de son gabarit, c'est qu'il y a vraiment un jeu physique. Là. Il y a un petit côté méchant qui est vraiment dans les coins, utilise son plus bas centre de gravité pour gagner des batailles, puis extrêmement fort physiquement. Le problème de cette extrême force-là physique pour un joueur de son calibre, c'est qu'il a beau être né en août, son frère il mesure comme 6 pieds 1, quelque chose comme ça. Je pense qu'il a l'air déjà à maturité physique jusqu'à un certain point, Justin Poirier, puis ça l'aide dans ses stats présentement, puis à driver le jeu comme ça. Fait que pour moi, normalement, je regarderais un joueur qui est né en août comme ça, avec un frère plus grand, puis je me dirais, ah, il y a du potentiel énorme à se développer au niveau physique. Je pense que Justin Poirier, c'est pas mal la forme qui va avoir l'air dans les nationales. Par contre, il y a le jeu physique, il y a suffisamment de patins, suffisamment de playmaking, son tir est vraiment exceptionnel, il y a suffisamment d'atouts pour faire encore là un bon pick de comme début deuxième ronde pour moi, quelque chose comme ça, là, au milieu deuxième ronde. Je pense pas que les équipes de la Ligue nationale vont le repêcher là vraiment, mais il va en avoir au moins une là, qui va s'avancer, là, je pense, entre 50, 60, quelque part là, qui va le prendre. Puis j'ai bon espoir qu'il est tellement compétitif, puis il y a tellement d'atouts qu'il va trouver un moyen de se rendre là. Un peu comme, il me fait penser à Alex DeBrincat. Je pense que c'est une meilleure comparaison que Cole Caulfield, parce qu'Alex DeBrincat, il avait vraiment ce petit côté-là physique dans son jeu dans la OHL avant. Fait que ça ressemble un peu à ça. Je pense que c'est un joueur très intéressant à surveiller là.
Mais je pense que Justin Poirier, il montre bien. Tu sais, souvent, quand on parle des jambes d'un skater puis de comment est-ce qu'il reste debout, on parle de son tronc. Je pense que Justin Poirier, c'est vraiment, tu sais, c'est un bon exemple de ça. Là. Oui, il est petit, mais il se fait pousser, il se fait cogner, puis il reste debout. Fait que, tu sais, ça, pour la taille, c'est un drapeau vert énorme, énorme, énorme. Écoute, avant de te laisser partir, j'ai une dernière question. Plus en rapport avec le repêchage, mais en rapport avec le développement de joueurs en général, par curiosité personnelle, là, je trouvais ça super intéressant. Toi, tu regardes, tu sais, comme tu l'as expliqué au début, tu regardes un peu des joueurs qui viennent de partout. Fait que je voulais savoir, est-ce que tu as un coup de cœur en termes de ligue de développement, une ligue où tu trouves que les joueurs sont particulièrement bien développés? Par exemple, à chaque fois qu'un gars sort de la SHL, il y a un petit edge de plus que les autres. Tu sais, par exemple, une ligue qui stand out à travers toutes les options qu'il y a. Là.
Je prends la réponse plate, là, c'est la OHL. C'est vraiment une grosse différence de calibre. Pas de calibre nécessairement, mais en termes de facilité à projeter les joueurs, la OHL dans la nationale, c'est extrêmement facile. S'il y a deux joueurs sur notre board qui ont la même valeur, s'il y en a un qui joue dans la OHL, ça se peut qu'il se retrouve avant juste parce qu'il va être dans ce système de développement-là. Il y a tellement de joueurs qui font la nationale de ce côté-là que ça devient juste facile de comme les sélectionner. Ouais. Puis je comprends pourquoi les recruteurs ont vraiment un biais. Avant, je faisais pas ça. Là. J'étais vraiment la personne qui se disait « Ah non, moi, je regarde pas pour quelle équipe qu'ils jouent ou quoi que ce soit. Tous les joueurs ont la même valeur. Enfin, je regarde juste leur skill set puis leur atout et tout ça. » Mais honnêtement, tu te trompes vraiment beaucoup en faisant ça. Faut que tu regardes. Si un joueur joue pour les Knights de London, il y a plus de chances de faire la Ligue nationale que quelqu'un qui vient, par exemple, la MHL. C'est juste certain. Le Sam O'Reilly versus Yeager Sherin, j'aurais plus tendance à choisir Sam O'Reilly juste parce que tu le sais que l'année prochaine, il va avoir un rôle proéminent dans une ligue qui ressemble beaucoup à la NHL parce qu'il y a un forecheck qui est similaire, il y a des systèmes de jeu qui sont similaires. Fait qu'il est déjà préparé et il va jouer plusieurs années dans ce système-là. Alors que Yeager Sherin, il passe plusieurs années à essayer de déjouer des joueurs, il faut qu'ils s'adaptent vraiment au style de jeu après ça. Fait que c'est très facile de projeter des joueurs de la OHL. Le calibre général de jeu est plus fort que dans d'autres équipes de Ligue canadienne aussi. Fait que c'est vraiment mon système de développement préféré. Le deuxième, c'est que les joueurs qui viennent de la USHL, c'est une ligue qui est assez faible quand même. C'est difficile de les scatter quand tu regardes la USHL comme Sacha Boisvert et tout ça. Ils ont l'air un peu moins bons qu'ils sont en réalité parce que leurs coéquipiers ne sont pas aussi bons que dans la OHL ou la LHGMQ. Mais quand ils arrivent dans la NCAA, ils ont comme 4 ans pour se développer après ça. Fait que c'est vraiment excellent. Puis le calibre de jeu de la NCAA fait juste augmenter. Fait que pour moi, c'est comme la deuxième option, je pense, qui est vraiment intéressante. Puis on voit ces mêmes biais-là de la part de recruteurs de la Ligue nationale. Fait que c'est plate, mais ça existe pour une raison. Puis je l'ai appris à la dure en faisant des listes.
Oui. Ben c'est ça, c'est un défi quand même de mettre les convictions personnelles de côté. Là. C'est sûr que si Justin Poirier pouvait devenir comme un prochain Cole Caulfield puis être sur le bord de 50 buts à chaque saison en tant que Québécois, tu te sentirais fier, mais quand tu arrives dans le repêchage, faut que tu sois pas mal plus objectif que « Hey, mon top 3, c'est tous des Québécois parce que je viens d'ici. » Puis pour ton point sur la USHL aussi, c'est super intéressant. Puis ça, je pense que le niveau va juste continuer à s'augmenter encore plus parce que déjà, comme tu le dis, il était déjà en croissance avant cette nouvelle-là, mais là, maintenant qu'on sait qu'il y a un potentiel pour que les joueurs soient payés, il y a beaucoup plus de talents de partout autour du monde qui vont vraiment considérer ça comme une grosse option. Mais écoute, David, je te remercie, là, puis c'était super intéressant comme podcast, puis écoute, il y a plein de questions sur lesquelles on aurait pu creuser plus puis partir une heure juste là-dessus. Fait que je te remercie vraiment d'avoir pris le temps, là. Je sais que tu dois être pas mal occupé, puis j'encourage vraiment tout le monde qui regarde à aller regarder le 2000 pages du guide de repêchage. Puis si vous le 2000 pages est trop pour vous, il y a aussi une version light avec vraiment juste les informations nécessaires. Fait que tu sais, si vous êtes curieux un peu là, la soirée du repêchage, prenez le guide light quand un joueur est sorti, quand votre équipe, une équipe qui vous intéresse sort, allez à la page, tout est facile à cliquer dessus. C'est vraiment incroyable comme outil à avoir pour la soirée du repêchage. Fait que merci beaucoup, David.
C'est un plaisir.
Bonne soirée.
Bye bye.